Merci Bernard. Deux exposés très intéressants qui soulèvent des questions difficiles, tous les deux. L'exposé d'Anastasia qui soulève la question de la portée, disons, politique de la psychanalyse. Et la question aussi de Bernard sur la psychanalyse comme symptôme. Anastasia, juste pour lancer la discussion, tu prends cette phrase que nous commentons cette année comme un mot d'ordre, hein, que tu mets en guillemets, tu dis que c'est paradoxal, tu mets en point d'interrogation. J'ai tilté un peu avec cette expression mot d'ordre parce que à moi ça évoque un commandement un peu strict. Mais tu en fais, ça c'est pas l'important, tu en fais deux lectures. Une lecture qui est celle que nous suivons plus habituellement, c'est-à-dire que l'inconscient détermine les choix des vies d'un sujet et sa position dans le monde. Et tu soulèves la question de comment ça déterminerait aussi, entre guillemets, l'aspect de comment le discours analytique et ses effets dans la cité. Hein, tu retires cette lecture aussi à partir de cette phrase. Et tu nous apportes un certain nombre d'exemples de Freud, de Lacan, pour illustrer ça. J'ai l'intuition comme ça que tous ces exemples ne s'équivalent pas. Je pense que, sans doute, l'expérience analytique permet, en tout cas a permis à Freud et à Lacan, on est à la ramasse, nous, et de penser leur époque. Et donc il y a, par exemple, quand tu parles des textes de Freud qui ont sur la guerre, sur le malaise dans la civilisation, tout ça, c'est-à-dire ça montre comment il était sans cesse en train de penser son époque, et ça nous sert surtout à nous, psychanalystes, ça nous oriente. Est-ce que être politiquement analytique, c'est ça? Ou est-ce que c'est avoir une position effective dans la cité? C'est là que si tu peux développer un peu sur qu'est-ce que tu en penses de ça. Alors, Bernard, j'avais une lecture, et tu m'apportes une autre question sur cette histoire de la psychanalyse en symptômes, en tout cas, dans la conférence des presses à laquelle tu fais référence, j'avais une lecture, râle-pâquerette peut-être aussi, mais parce que Lacan a toujours dit que les discours sont historiques. Hein, et les discours analytiques, c'est les derniers venus, dit-il. Hein. Et donc la question que je me posais, c'est pourquoi la psychanalyse apparaît à ces moments-là, c'est-à-dire avec Freud et pas avant. Hein. Il localise les autres discours à un moment précis de la civilisation, à Socrate, à Lycurgue, à Charlemagne. Et les derniers, c'est la psychanalyse. La question, c'est que la psychanalyse apparaît à un moment précis. Et donc, j'avais toujours compris cette phrase dans le sens, il dit, si je me souviens bien, elle fait partie du malaise dans la civilisation. La psychanalyse est un symptôme, elle fait partie du malaise dans la civilisation. Si ce n'était pas un symptôme lié à cette époque-là, c'est-à-dire avec l'avènement de la science, je prenais les choses par ces biais-là, et pas forcément par rapport aux autres discours. Mais en effet, tu as tout à fait raison, c'est l'articulation des discours qui permet de lire et d'interpréter les autres discours, en effet. Mais est-ce que c'est compatible, cette lecture, d'un symptôme de la civilisation, en quelque sorte?
On va essayer.
Voilà. Vous répondez ou on prend plus de questions? Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle?
Une remarque peut-être.
Juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire, c'est dans l'envers, si mon souvenir est bon, que Lacan situe l'apparition historique de la psychanalyse qu'il rapporte à une déchirure. C'est un terme qui m'avait frappé, que j'avais relevé. Une déchirure, sais plus s'il définit plus précisément cette déchirure, c'est une déchirure dans le tissu social, et il dit que un certain nombre de personnes pâtissaient symptomatiquement de souffrance de cette déchirure de la fin du 19e siècle, l'exténuation de disons, du discours patriarcal victorien, etc. Et que beaucoup l'ont exprimé de manière différente, et celui qui l'a doctriné, c'est Freud. C'est-à-dire qu'il y avait les artistes, les musiciens, il y avait beaucoup de gens qui voulaient que ça change. Et Freud a doctriné la souffrance de ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Lacan parle ensuite d'un moment où la déchirure est accomplie, non pas commencée, entamée, mais accomplie à propos de 39-45 et de tout ce qui allait avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a vraiment une façon de montrer que, je ne sais pas si la psychanalyse est un symptôme, en tout cas que la psychanalyse est une réponse au malaise dans la civilisation, à une forme de malaise et une façon d'y répondre, en rejoint l'exposé d'Anastasia.
C'est pas du tout en contradiction avec l'accent qu'a mis Bernard, puisque Bernard a bien rappelé que tous les discours traitent le même réel. Pas de rapport sexuel, comme on dit avec cette fameuse formule, pas de rapport sexuel. Et au fond, quand on parle de la déchirure en question, ça veut dire l'échec du discours, disons pour aller vite, du discours du maître traditionnel pour couvrir l'absence du rapport et créer un ordre des jouissances relativement supportable pour les humains qui supplée à la jouissance du rapport qu'il n'y a pas. Et donc les deux vont ensemble. Hein, les deux ne paraissent pas contradictoires. Hein, c'est vraiment... que la psychanalyse est un symptôme historique, comme tous les discours, d'accord, et répond à l'échec des autres discours historiques. Hein, ça va bien. Mais du coup, ça révèle aussi le côté universaliste de la psychanalyse. La psychanalyse, en mettant à jour ce qu'on met sous cette expression, pas de rapport sexuel, hein, ça va vite de dire ça, mais enfin bon, ce qu'on met là-dessous, ou si on veut la suppléance phallique partout, en révélant ça, sous bassement réel de tous les discours, il y a un fondement universaliste qui, en quelque sorte, transcende le côté historique, apparu à un moment, mais qui jette un jour sur les autres discours. Alors moi, je voulais dire quelque chose, puisque j'ai le micro devant moi, je continue. Anastasia, alors, j'ai bien aimé votre définition du politiquement analytique. Hein, c'est plus qu'astucieux, c'est très juste. Et au fond, ce politiquement analytique, tous les exemples que l'on peut en donner, vous en avez donné toute une série chez Freud, chez Lacan, ça se réfère au fond, ça renvoie, me semble-t-il, à une seule thèse fondamentale que Lacan a formulée: les discours ne prennent sens qu'à partir d'un autre discours. Et donc, bien sûr, les psychanalystes, Freud, Lacan, à chaque fois, ils prennent une position en fonction du discours analytique dans la réalité politique de leur temps. C'est-à-dire qu'ils donnent sens à ce qui se passe à partir du discours analytique. Et alors je me disais, le gros ennui avec cette thèse, qui est juste, je crois, c'est que c'est réciproque des autres discours. On regarde aussi le discours analytique. Et on ne regarde pas d'un très bon œil actuellement, dans l'ensemble. Hein. La psychanalyse a vraiment changé le siècle et le monde, comme vous disiez, mais la question de jusqu'à quand est posée quand même. Mais ça, parce que les autres discours aussi nous regardent, donnent sens à notre action, plutôt enlèvent le sens de notre action.
Et ça se pose par Freud, par Lacan tout le temps.
Oui, oui, ils ont aperçu tous les deux ce qui semblait venir.
Bernard Togo, j'ai.
Merci. Ma question est plutôt pour Anastasia, c'est pas une question, c'est une petite remarque. Mais je pense aussi pour Bernard, jugerai. Mais il est venu trois signifiants de Lacan en vous écoutant. Personne déplacée, déportée et exilée. Au titre de l'inconscient politique, il me semble que là, nous avons des ouvertures, des éclaircies chez Lacan extrêmement fortes. Personne déplacée pour caractériser le déplacement constitutif de l'inconscient, ce qu'il appellera en radiophonie le virement, c'est-à-dire ce qui fait advenir un inconscient. Et il prend là quelque chose de l'ordre de l'histoire dont parlait Marx de la pré-Seconde Guerre mondiale. Les personnes déplacées, c'est ce qu'on appelle maintenant des réfugiés. Déportés, ce sont ceux qui font l'histoire, et l'histoire est la leur. Et c'est en dernière analyse, me semble-t-il, mettre tout à fait en relief cette dimension d'une fermeture, d'une forclusion qui exclut radicalement les acteurs du processus inconscient, autrement dit le sujet de l'inconscient. Il y a une forclusion constitutive.
De quoi ? Je n'ai pas compris, Bernard. Forclusion,
quel rapport entre le déporté et la forclusion ?
Le déporté, c'est le radicalement exclu de l'histoire et c'est lui qui est incarné en quelque sorte le sujet pour Lacan.
Oui, oui.
C'est ceux qui font l'histoire, dit-il.
Ils font l'histoire, c'est donc le sujet de l'histoire. Oui. Derrière l'histoire, c'est en l'être le sujet.
Ce sont des corps.
Ainsi, le sujet de l'inconscient est-il dans la même position, radicalement en position d'ensemble de vide, de réalité, objet d'une exclusion de principe, d'excentricité, disait-il au début. Et enfin, il me semble que exil me semble tout à fait caractéristique de ce dont il s'agit pour articuler inconscient et politique. Et c'est tout à fait une question d'actualité à laquelle on ne peut pas se soustraire, me semble-t-il, en tant que nous existons actuellement dans la société dans laquelle nous sommes. Voilà.
Vous pouvez expliquer un petit peu le rapport que vous faites entre exil, déporté et
sujet.
Et le
sujet
que vous avez dit, l'exclusion de l'inconscient. Pourquoi non. Les déportés impliqueraient-ils l'exclusion de l'inconscient ?
Les déportés sont ceux qui font l'histoire.
Oui.
D'accord ? Ils sont par rapport à l'histoire comme le sujet par rapport à l'inconscient. De la même façon que les personnes déplacées sont quelque chose qui illustre le déplacement constitutif qui permet à l'inconscient d'advenir. La métaphore est Lacan. Personne déplacée ? Bon, je peux développer, mais c'est pas moi de le faire. Là.
Vous pouvez reprendre tout le passage.
Non, mais les déportés font l'histoire.
Et le sujet de l'inconscient.
On ne peut pas dire que le sujet de l'inconscient fait l'inconscient.
Non, mais le sujet de l'inconscient est ce qui est en position d'exclusion constitutive pour que l'inconscient advienne. De même que les déportés sont en position d'exclusion radicale pour qu'une histoire advienne. Et ce ne sont pas des métaphores, j'ai l'accord. Ce ne sont pas des métaphores, j'ai dit. À mon avis, c'est la désignation d'un réel.
C'est la désignation d'Avel, mais je ne comprends pas le parallèle avec le sujet de l'inconscient. Enfin,
bon,
c'est
pas
grave.
Moi, j'ai une question quand même. Avant, c'était une remarque. Je peux
oui.
J'ai une question pour les intervenants, justement, par rapport à la psychanalyse symptôme. On a mis l'accent dans ma remarque tout à l'heure, dans ce que Colette a dit, sur le fait qu'au fond, Freud a été celui qui a théorisé ce qui se passait. Et de ce point de vue-là, pour y penser, c'était déjà là, que ce soit lui ou un autre, ça ne change pas. En revanche, c'est quand même Sigmund Freud qui a doctriné, et personne d'autre. Et après Sigmund Freud, il y a eu Jacques Lacan et personne d'autre. Bon, en tout cas pour nous, il y a eu des jalons intermédiaires, mais des grands moments comme ça, tournant des pivots dans l'élaboration éthique, il n'y en a pas des tonnes. Donc, je vous pose cette question parce que symptôme, psychanalyse symptôme, il y a bien sûr le côté symptôme du discours ambiant, le retour, la réponse à la souffrance de la civilisation, mais c'est aussi quand même l'élaboration d'un. Et j'insiste là-dessus, ma question porte là-dessus, quelle part de l'élaboration d'un et de l'ère du temps. Parce que Lacan, je vous pose cette question, parce que Lacan, souvent, plusieurs fois, insiste sur la nécessité ou le fait qu'on le cite ou non. La différence qu'il y a entre le fait de le citer ou non quand on se sert de son enseignement. Et il dit, si mon souvenir est bon, quelque chose comme me citer, ça resitue ce que j'ai dit dans le contexte de guerre où ça s'est élaboré. Et je crois qu'il dit dans le contexte de guerre, de lutte, il dit lutte ou guerre. Mais enfin, le citer, ça situe les choses dans leur contexte. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu, il y a un enjeu aussi qui n'est pas seulement général, universel, mais pour Lacan lui-même. Donc quelle est la part du réel? Vous avez compris ma question?
Bon, je vous laisse...
Je peux répondre.
Pas vraiment. Le discours et les individus, oui, d'accord.
Carlos.
Moi, je voulais. Je vous peux aimer l'évidence qui a fonctionné. Du coup, je voulais vous proposer aussi un commentaire et une question spécifique à toi, Bernard. C'est sur la question de l'apparition des discours, parce que dans cette question de l'apparition des discours que tu as évoquée, Elisabeth, Lacan, quand même, insiste beaucoup sur le lien avec la religion. Et il l'a fait par rapport à la science, parce que la révolution copernicienne et de Galilée se réfère directement à ce discours dominant, quand même, qui est celui de la religion, en fait, où effectivement le centre de la réflexion va se déplacer complètement. Et de ce point de vue, on pourrait se demander si justement la découverte de Freud n'est pas une révolution, justement parce qu'il opère un déplacement, disons, un décentrement aussi par rapport, disons, à cette question de la religion. Il ne faut pas oublier qu'il est contemporain de Nietzsche, qui déclare justement voilà, que le Dieu, disons, comme il est mort. Quoi. Donc, du coup, c'est quand même une mise en cause, quand même, à nouveau, disons, de ces discours du maître, on va dire. Donc, du coup, je voulais vous proposer ça. Pourquoi? Parce que dans la troisième, il insiste beaucoup justement sur, disons, en gros, le danger. Pour lui, ce n'est pas du côté de la science, c'est du côté de la religion qu'il dit, elle est introuvable, pour revenir sur le c'est terme qu'il a utilisé. Il dit, elle est introuvable. Donc ça, c'est une première question, c'est-à-dire comment, si vous voyez un lien, en fait, par rapport à ça ou pas. Et deuxièmement, je voulais te poser une question sur cette question du prolétaire, parce que tu as fait un développement qui t'a amené à dire, au fond, ça serait le modèle, ça serait le psychotique, on va dire, du prolétaire. Donc je voulais savoir comment tu es arrivé à ça. Et au fond, si quand il dit que tout individu c'est un prolétaire, c'est pas une manière de dire que tout individu c'est un prolétaire de son inconscient. Parce qu'on peut l'entendre comme ça aussi. Mais ça m'intéressait beaucoup de voir quel est le chemin qui t'a conduit à penser que ça serait du psychotique. Voilà, c'est juste ça. Merci.
Reste là, Anastasia, il faut répondre.
Je peux commencer. Hein. Donc, Anastasia, tu as quelque chose à répondre? Bon, pour la question de Marc, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Bon, ce qui me vient, mais ça paraît bateau, ce qui me vient, c'est que, au fond, il y a toujours un qui invente un discours Il y a Marx, le discours capitaliste, il y a Freud, bien sûr. Alors, je ne sais pas la question que tu posais, je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu qu'est-ce que ça représentait pour l'homme, hein, pour l'homme. Pour ça, comment est-ce qu'on en vient à inventer un discours? Je dirais mystère, ça. Mystère. C'est la question de l'invention, de la création. Alors ça, c'est...
L'effet de Foucault sur les créateurs de discursivité.
Qu'est-ce qu'un auteur?
Bon, parce qu'on dit par exemple Schliemann, inventeur de Troie. Mais ça aurait pas été Schliemann, ça aurait été un autre archéologue à un moment.
Ouais.
On ne peut pas dire la même chose, il me semble, pour Freud.
Bien sûr. Bon. Donc c'est une vraie création, quoi. Et au fond, ils offrent le secours d'un discours, quoi, hein, l'un comme l'autre, au malaise dans la civilisation.
Enfin, Freud, pas d'accord.
Oui, l'un comme l'autre, je pensais à Marx, je pensais à Marx et à Freud.
Ah oui, pardon. Voilà. Créateur du discours analytique, c'est Freud.
Tout à fait.
D'accord, il a toujours marqué comme ça.
Bien sûr.
Il a apporté beaucoup, beaucoup après, mais le créateur, c'est Marx, c'est Freud.
Aussi.
Parce que c'est Freud qui a inventé le dispositif.
Oui, c'est ça. Hein?
C'est parce que Freud a inventé le dispositif et que le dispositif reste freudien malgré tous les changements qu'il y apporte. C'est pour ça que la psychanalyse ne peut pas être dite non freudienne, jamais. Non, c'est un détail ce que je dis là, mais
c'est la question. Voilà, juste une petite remarque, si j'ai tellement insisté sur le fait, si ça m'a attrapé, je crois, cette question, hein, la psychanalyse est un symptôme, parce que... C'est parce que, bien sûr, la psychanalyse est appelée de plus en plus comme méthode thérapeutique. Et que rappeler qu'au fond, elle est un symptôme au même titre que les autres discours et qu'elle vient traiter le malaise dans la civilisation, mais que de toute façon, elle ne viendra pas à bout du rapport sexuel qu'il n'y a pas, il me semble que c'est une façon de rappeler un petit peu quelque chose, une position un peu éthique, si je veux. Voilà. Mais l'histoire du prolétaire... non. Ce que j'ai remarqué dans le truc, ce que j'ai attrapé, c'est que la définition qu'il donne du prolétaire, un individu qui n'a pas de quoi faire lien social, qui n'a pas de discours faire lien social, ni semblant, c'est-à-dire semblant, c'est quand même une définition clinique du psychotique. Donc, je n'ai pas dit du tout que tous les prolétaires sont psychotiques.
Mais l'individu n'est pas un sujet.
Comment ?
Quand il dit individu,
oui, c'est pour ça que je suis revenu après. Hein, que, voilà. J'ai repris ça en disant que voilà, il dit bien individu, donc c'est d'avant la détermination des structures cliniques. Au fond, là où il me semblait que, par rapport à cette histoire du corps comme pur corps de jouissance, il me semblait que ça désignait peut-être aussi un corps marqué déjà par le langage. Que c'est, voilà, c'était la lecture que j'en faisais un peu, puis c'est une question. Je réponds un petit peu à ta question. Hein, voilà, c'est ça sa démarche telle que je l'ai lue. Hein. Alors pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus? Bon, il m'a semblé que c'était parce qu'au fond, il nous dit ce qui est radicalement le sujet qui se présente, qui va en analyse. Il y va avec son corps déjà marqué par le langage et la langue, quoi. Tout analysant est un prolétaire qui cherche le secours d'un discours. C'est un petit peu comme ça que je l'ai entendu. Je suis pas certain.
Anastasia.
Il n'y a pas d'analysant qui arrive sans être déjà pris dans le discours.
Oui,
déjà la ressource du semblant.
Oui.
Donc le prolétaire, c'est pas l'analysant qui arrive.
Non. Mais est-ce que la visée de la psychanalyse, c'est pas de l'amener vers...
Vers le prolétariat.
Vers ce corps marqué de la langue, du langage, voilà, c'est ça.
Je crois que la phrase de Lacan ne concerne pas l'analysant, c'est une phrase très générale.
Oui.
Une phrase très générale. Tout individu est d'abord un prolétaire, dans la mesure où il est un organisme. Et il faut le semblant et la prise du langage, puis du discours, pour qu'il devienne un disant éventuel. Et donc, je crois que cette histoire du prolétaire...
Le langage est quand même là avant le discours.
Oui.
Voilà, c'est ça que je voulais
dire. Le langage plus puis le discours.
C'est ça, c'est ça.
C'est ce que je disais.
Moi, je voudrais dire quelque chose quand même.
Non, c'est
rien de presse.
Non, parce que je pensais au qu'est-ce qu'un auteur que Marc disait, et je me demande si, comment il disait ça, une rupture. Une rupture épistémique, par rapport à Foucault. Parce qu'effectivement,
il faut le revoir,
je ne sais plus, mais il y a un terme bien précis. Mais c'était justement, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas lu ces textes, que c'était l'écrit qui dominait sur l'écrivain, que ce n'était pas l'auteur qui. Et c'est ça, effectivement, Freud, c'est tout le contraire, en fait.
Je ne crois pas, justement. Je crois que Foucault, quand il fait son article, il parle dans une époque où on nous avait annoncé la fin de l'auteur. Il n'y avait plus que des textes sans auteur, sans sujet. Ou alors le sujet supposé au texte, et on avait gommé l'auteur. C'était la flambée structuraliste. Et Foucault fait un texte à contre-pente.
Justement,
Lacan y est allé, pas pour rien.
Je ne dis pas le contraire, comme vous avez dit qu'il pointait justement qu'il n'y avait pas d'auteur, que c'était plutôt les textes qui dominaient, qui prévalaient sur l'auteur. En
fait. Et il n'était pas d'accord.
Il n'était pas d'accord, oui, bien sûr.
D'accord.
Oui, vous êtes d'accord. Mais je dis simplement qu'effectivement, l'exemple de Freud, c'est l'illustration de ça. Il nomme les choses, c'est l'auteur qui.
C'est l'auteur.
C'est pas un auteur.
Quand il disait « vous ne pouvez pas ne pas en passer par mes signifiants », c'est pareil. Oui. De façon d'imposer des signifiants qui deviennent incontournables.
C'est rupture épistémologique.
Coupure épistémologique.
Colette.
Voilà.
Sol.
Oui, en fait, Colette l'a déjà dit, je voulais faire une petite remarque à propos de cette phrase de la commande d'individu réellement prolétaire pour dire qu'en fait ça ne peut s'entendre que si effectivement il s'agit de l'individu. Il n'aurait pas pu dire chaque sujet est réellement un prolétaire. Hein, donc il s'agit vraiment de l'individu qui n'est pas le sujet. Le sujet étant toujours sujet de discours. L'individu non.
On est d'accord.
On est d'accord.
C'est ce que j'ai dit.
Oui, sauf que je ne parlerai pas de l'individu psychotique.
Comment ?
Je ne parlerai pas, moi, d'un individu psychotique. Il me semble que le psychotique est un sujet. Que la psycho désigne une position du sujet dans la structure. Mais l'individu n'est pas psychotique pour autant.
Bah, bien sûr.
Bon, on est d'accord, alors.
Oui.
Alors, j'ajoute quelque chose. il dit quand même le c'est un symptôme. Le prolétaire est un symptôme. Pourquoi il dit symptôme social ? C'est le seul symptôme social. Ben justement, parce que le prolétaire, ça désigne la jouissance qui n'est pas marquée par le langage. Pas encore, ou qui n'a pas réussi à être marquée par le langage. Et donc, elle fait symptôme dans tous les ordres de jouissance des discours. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi c'est un symptôme. Si c'était juste une réflexion sur le fait que nous naissons comme des organismes, que dans un second temps, le langage marque l'organisme, et puis que le discours vient se greffer. Si c'était juste pour dire ça, il ne pourrait pas dire c'est un symptôme. S'il dit c'est un symptôme, et un symptôme, ça manifeste toujours soit une vérité, soit un réel, soit les deux. Moi, je ne vois qu'une façon de l'entendre, c'est de dire qu'il y a de la jouissance qui ne rentre pas dans la régulation discursive. Autrement, je ne comprends pas pourquoi il dit que c'est un symptôme. Je voudrais dire quelque chose quand même qui me fracasse. Nous vivons sur l'héritage de Lacan, et donc nous avons notre instrument des quatre discours. Et avec la thèse de la psychanalyse, est un des quatre, le dernier apparu, et solidaire des autres. hein, solidaire des autres. Mais il faut quand même se rendre compte que les autres, ils y sont plus. Le discours du maître ne régit plus le monde, ne régit plus toute notre politique, toute notre économie. Et donc, le discours du maître, on n'arrête pas de dire, il a fait long feu avec le... Lacan indique en partie quand il parle du capitalisme et qu'il essaye d'écrire le matériel capitaliste. Si le discours du maître a fait long feu, ça veut dire que la réalité actuelle n'est plus réglée par le discours du maître. Alors qu'est-ce qui reste? Et là, je rejoins très volontiers les références qu'a donné Bernard. Les exilés, les déportés, les personnes déplacées, c'est-à-dire la multiplicité des individus de moins en moins régulés dans le monde. Alors, évidemment, ça change la place de la psychanalyse, forcément, qui, elle, essaye de rester un discours, essaye de rester un lien social spécifique. Alors, souvent, quand on est plus ou moins optimiste ou confiant ou moins, on dira ça la rend toujours plus nécessaire, justement à cause des défragmentations. Toujours plus nécessaire parce qu'elle crée un lien. D'ailleurs, Lacan le disait tout à la fin, elle va être de plus en plus nécessaire, la psychanalyse. Espérons qu'elle soit de plus en plus nécessaire et qu'elle reste la psychanalyse. Parce que j'ai apprécié que vous rappeliez Anastasia, quand même, dans le monde actuel, la nécessité de la formation analytique. L'imposture analytique est partout. Partout, il y a des gens qui se disent analystes, qui n'ont aucune formation, qui n'ont pas fait d'analyse. Quelquefois, ils n'ont même pas lu à peine Freud, Lacan pas du tout. Donc, le truc, l'analyste s'autorise de lui-même, qui était une phrase théorique complexe et exigeante, est devenue dans le discours actuel un laisser-passer pour que chacun vous dise « mais vous n'avez rien à dire, hein, moi je m'installe hein ». Donc ça c'est quand même, c'est pour ça que je dis, à supposer que la psychanalyse devienne de plus en plus nécessaire, parce que comme lien social, elle peut être un contrepoids à toutes les fragmentations, à tous les niveaux. Encore faut-il que ce soit la psychanalyse, et pas le psy de base qui n'est pas psychanalyste. Ou alors, autre pôle, on peut se dire, ah oui, mais s'il n'y a plus la solidarité des discours, comment la psychanalyse va garder sa consistance? C'est une question. C'est une question sans réponse, mais je trouve que ça se trouve ça.
Mais c'est étonnant de voir comment il faudrait relire Freud, en fait.
Oui, toujours.
Parce que même je parlais de cet ouvrage, La question sur l'analyse profane, mais effectivement, il remet tous les points sur l'exigence, il dit lui-même. Bon, la question, c'était par rapport au médecin, mais la question se pose absolument aujourd'hui. Il faut revenir un peu aux sources, aux essentielles.
Il y a peut-être une autre... Bon, c'est des remarques un petit peu sur la pratique. On voit parfois des personnes qui ont rencontré des analystes, tels que, on parlait il n'y a pas longtemps, Jean-Jacques Grob, quoi, qui disait ces analystes qui ont suivi, qui ont été formés par Lacan à une époque et qui ne parlaient pas, qui ne disaient rien. Quand vous arrivez dans le cabinet, des gens qui disent, j'ai vu un, deux analystes, mais il ne me disait rien, quoi. Il ne s'est rien passé, il ne disait rien. Voilà. Et bon, c'est délicat parce qu'il ne s'agit pas de... Il ne s'agit pas de me mettre en scène là-dessus, mais ça vous est arrivé à tous, et ça arrive bien sûr à d'autres.
c'est la première fois que je peux rencontrer quelqu'un avec qui je peux rester, etc. On parle un peu, etc. Donc la formation des analystes, oui, mais il y a ce côté-là quand même. La question, c'est est-ce que les analystes s'adaptent avec leur formation à ceux qui sont pris dans le discours capitaliste là et qui viennent les voir. Qu'est-ce qui peut se... Est-ce qu'il y a une mobilité là-dessus? Est-ce qu'il y a une souplesse chez l'analyste là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui demande une dimension clinique déjà, hein, une clinique très...
Ben, s'ils ne l'ont pas, ils vont le payer. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais ça fait partie aussi des constats de l'époque, ça. Mmh. Hein.
Je peux faire une remarque.
Et après tu passes à une guest.
J'ai quand même le souvenir, puisque maintenant j'ai aussi des souvenirs, à l'époque de Lacan, il y avait un contraste qui m'avait énormément frappé entre des lacaniens, ceux que j'avais pu approcher au titre d'analysant, ou celui puis d'autres, qui étaient des analystes effectivement mutiques, que vous avez baptisé à l'époque les sphinxters. Les analystes mutiques, et à côté de Lacan, qui était tout sauf mutique, qui s'adaptait, qui était complètement différent avec un interlocuteur ou un autre, je parle dans son cabinet, mais qui était absolument, se posait activement en interlocuteur, qui occupait la place, ils apprenaient. Alors là, ça reste un mystère, peut-être que tu connaissais mieux cette époque-là que moi, qu'est-ce qui fait que Lacan était tellement, entre guillemets, actif, pour reprendre un terme féhensien, et que ses élèves ont été aussi sphinxériens.
Il y a vraiment des élèves, hein, dans l'IPA aussi, il y a des sphinx. Il n'y a pas que les élèves de Lacan.
Je n'ai pas dit les
sphinx. Il y a des sphinx.
J'ai pas voulu reprendre.
Dans l'IPA aussi.
Ah, tiens, Agnès Villette. Merci.
Je me disais que moi je suis à une période particulière où je suis plutôt optimiste, mais pour une raison toute de durée de mon expérience, de ma pratique, qui a depuis un certain temps un effet que les patients qui me viennent, et je vais dire récemment ici, me viennent de mes patients d'avant, et que c'est des effets positifs de l'analyse qui amènent d'autres personnes à consulter l'analyste. Et je trouve que les patients qui ont bénéficié, enfin qui témoignent de quelque chose de leur analyse dans leur vie, dans leur entourage, auprès de leurs amis, et je trouve que ces patients, ces analysants, ont un discours plus optimiste sur l'analyse que bien souvent les psychanalystes, mais je parle de nous. Nous, on est capable de dire que l'analyse, ça ne change pas grand-chose, hein, que les symptômes reviennent toujours à la même place. Enfin, des choses qui sont tout aussi insidieuses que la phrase « l'analyste ne s'autorise que de lui-même » et qui, s'ils sont mal compris, ont des effets négatifs. Je trouve que c'est aussi une préoccupation.
Oui, il faudrait que les analystes se souviennent que la parole est performative. Mmh. Et donc, quand ils ont des vagues à l'âme, il faudrait réfléchir trois fois avant de s'exprimer en public. C'est une très brève remarque, mais moi j'ai bien aimé ton à propos de crever le symptôme, comme à faire du symptôme avec le crever. Et je trouve que ça renvoie bien ce que disait Carlos sur la religion d'un côté increvable, et puis c'est-à-dire de ne pas nourrir de sens le symptôme, et ça. Donc c'est un petit détail, mais qui, je trouve, éclaire bien le. Voilà.
D'autres questions, remarques? On va voir mon coup.